Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique, des hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer.
Alors, bienvenue à Ainsi soit-elle. Aujourd'hui, en studio, Hélène et Chantal à la mise en onde et au choix musical, qui est, vous allez voir, diversifié avec des petites trouvailles. Aujourd'hui, on a une émission thématique, on pourrait dire. Hein? On
Absolument.
Parle, en fait, on s'entretient avec Mohamed Cherfi.
Enfin,
qui est revenu au Canada cet été après un long périple. On aura l'occasion de revenir avec lui sur tous les événements et l'avenir peut-être pour lui également. Donc, on s'entretient avec lui et on va commencer l'émission avec quelques petites actualités pour nous réchauffer. Alors, pour la première pièce, on s'en va écouter un groupe de femmes iraniennes qui vivent en Suède, étonnamment. Le groupe s'appelle Abjez. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, on va l'espérer. Elle chante en persan, qui est une langue qui est parlée non seulement en Iran, mais aussi en Afghanistan, en Tadjikistan et en Ouzbékistan. C'est deux femmes qui sont influencées par différents styles musicaux, le reggae, le ska, le rock et même le flamenco. Alors, ça va écouter la pièce Edea. Là, je suis sûre de l'avoir raté, mais en tout cas, je vous laisse écouter ça.
با خودی
Alors, vous écoutez toujours Ainsi soit-elle, votre émission féministe libertaire sur les ondes de Sekaya FM 88,3. Et je me demande, est-ce que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, les filles?
Absolument.
Bon, ben je vais vous déprimer un peu en parlant du sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s'est ouvert hier à Rome. C'est un sommet qui se tient pas mal à chaque année, là, en fait, assez régulièrement, et qui vise, dans le fond, à rassembler les chefs d'État pour discuter de comment éradiquer la faim dans le monde, comment s'attaquer au problème de la faim dans le monde.
En s'attaquant au capitalisme.
Ah, ben c'est pas mal déprimant parce que, d'abord les chiffres, OK? Pour la première fois en 2009, il va y avoir 1 milliard de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. Donc, 1 milliard, c'est quand même non négligeable. Au niveau des enfants, en fait, au niveau des enfants qui souffrent de la malnutrition, les chiffres sont absolument astronomiques, là. C'est un enfant qui meurt de malnutrition à tous les 5 secondes, ce qui représente à peu près 17 000 enfants chaque jour et 6 millions par année. Les chiffres sont quand même assez incroyables. Et ce qui est encore plus déprimant, c'est que en fait, c'est les mêmes constats puis les mêmes objectifs qu'on se fixe année après année lors de ces conférences-là. Depuis 1974, que les chefs d'État veulent affirmer, dans le fond, le droit inaliénable à être libéré de la faim, qu'ils veulent éradiquer la faim dans le monde. Puis année après année, après 20 ans de politique, il se passe absolument rien. Non seulement il se passe rien, mais ça s'aggrave. Oui, ça empire. C'est ça qui est complètement catastrophique. En 2008, les chefs d'État s'étaient fixés comme objectif d'avoir réduit la moitié du nombre de personnes souffrant de malnutrition d'ici 2015. Alors,
juste... Il reste plus beaucoup de temps.
Juste depuis l'année passée, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de près de 200 millions d'individus. Donc, on est loin d'être en diminution, on est en augmentation. Et les engagements, parce que les pays s'étaient engagés à verser de l'aide financière. Au début de l'été, il y avait seulement 10 % de l'aide promise qui avait été versée. Donc, on comprend que les chefs d'État, ils s'engagent, mais quand vient le temps de financer...
C'est la crise.
La crise pour tout le monde. Alors, l'année passée, il y avait une date butoir pour l'éradication complète de la faim dans le monde qui avait été fixée en 2025. Et cette année, on a floché cette date-là. En fait,
on a décidé d'être honnête, au moins.
Au moins, ça peut avoir ça comme objectif.
Ça a l'avantage d'être transparent.
Et ce qui est d'autant plus déprimant, c'est que, la déclaration de cette année ne parle pas du problème, par exemple, des agrocarburants, de l'éthanol qui prend des surfaces cultivables de manière assez importante. Parle pas du rôle des firmes agroalimentaires et des différentes politiques commerciales qui ont favorisé la culture d'exportation au lieu de favoriser les productions vivrières depuis les 20 dernières années dans le monde. Donc, on n'est pas prêt d'éradiquer la faim dans le monde et c'est bien de valeur parce que le problème c'est terrible comme problème. Là, quand tu penses que des gens meurent de faim, c'est assez dramatique. Alors, voilà pour ma nouvelle déprimante. Je continue en fait divers pour changer
de
ton.
Rien ne pourrait altérer ma bonne humeur étant donné qu'on reçoit Mohamed Chefi en entrevue.
Alors, la police de Tokyo a lancé une nouvelle offensive pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le métro. Alors, au Japon, il y a une pratique que les hommes font dans les métros qui sont passablement bondés de monde. C'est ça s'appelle le shikan. Ou je sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est des groupes de jeunes hommes qui entourent les femmes et procèdent à des genres de molestage.
Des
soit ils les tripotent, soit ils se frottent sur eux, soit ils prennent des photos de en dessous de leur jupe et des choses comme ça. Puis il y a des sites web où sont montrés toutes ces images-là.
Répertorier leurs actes de bravoure.
Voilà. Alors, la police essaie, dans le fond, de lutter contre ça, mais évidemment, devant les masses de personnes, c'est quand même assez difficile. Ils ont créé des wagons réservés aux femmes, mais il semble que ça n'ait pas été suffisant parce qu'il y a près des deux tiers des jeunes femmes qui ont été victimes de ces chicanes-là, de ces attouchements-là. Donc, c'est quand même assez drôle.
Troublant,
hein?
c'est clair.
Et je continue avec un autre fait divers. Dans la région de Ottawa, en fin de semaine passée, il y a eu un incendie criminel dans une maison de chambre samedi soir. En fait, ce serait un cocktail molotov qui aurait été jeté qui aurait allumé le brasier, en fait, de cette résidence-là. C'est une maison de chambre qui n'accueille que des femmes. Alors, il y a une vingtaine de femmes qui ont été un peu victimes de ça. Et c'est quand même assez étrange parce que c'est le deuxième incendie criminel en 6 jours à Ottawa et 6 jours auparavant, il y avait eu un incendie criminel qui avait visé un refuge pour venir en aide aux femmes itinérantes ou dans la pauvreté.
OK, donc c'est clairement, en tout cas...
Ben, en tout cas, ça semble ciblé, là, mm-hmm. Et c'est ça. Donc, évidemment, là, la police enquête actuellement, mais évidemment, elle n'est pas capable de confirmer, là, étant donné qu'ils n'ont pas trouvé les personnes responsables, ils ne sont pas capables de confirmer. Mm-hmm. Je trouvais ça inquiétant, d'autant plus que, ben, on va célébrer dans le 6 décembre le 20e anniversaire de la tuerie de la Polytechnique. Ouais. Fait que c'est inquiétant de voir ce genre d'événement-là qui cible particulièrement les femmes mm-hmm. de manière assez violente, là. Parce que dans le premier incendie, il y avait une femme, entre autres, qui est décédée, là. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, dans 20 jours, en fait, on va célébrer le triste sixième anniversaire de la Polytechnique et le Congrès du travail du Canada a décidé de mener une campagne. Ça s'appelle 20 jours, 20 façons de mettre fin à la violence faite aux femmes. Alors, la campagne vise à envoyer à chaque jour, donc du 16 novembre au 6 décembre, mm-hmm. une carte postale à Stephen Harper pour lui proposer des moyens de lutter contre la violence faite aux femmes par différents moyens, là, par l'éducation, de lui envoyer
nos
suggestions. Exactement. Donc, j'invite à regarder ça
participer. Il y a un colloque aussi qui est organisé, si je ne me trompe pas, à l'UQAM pour...
Oui, bien, il y a autour
de la question de la Polytechnique.
Il y a plusieurs événements. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici le 6 décembre à Squatel. Mais entre-temps, envoyez votre carte postale. Fait que... On s'en va en musique et après ça, on va reparler avec Mohamed Cherfi. On s'en va écouter le groupe Random Recipe avec la pièce Something on My Mind.
Up, talk through the corrupt. Luck is for beginners, aqueducted to the listeners. Flow it up through a mold. Thoughts and lyrics forever close to me, my precious shield of gold. To all to be on stage, just when is a renege. For expressing all that rage gives that burst of courage. So take that pen and paper and remember it's a savior. With lyrics to your song, you get along way better. Caution, I'd rather be standing strong and alone than being number double X, what in life cyclone.
Time is passing by.
Go.
I need to realize.
Fast forward.
Or figure out why.
Rewind.
Alone is how I stand. Cause time is passing by.
And go.
I need to realize.
Sono, sono qui, 3 di agosto, Campobasso. Zio Tony e zia Imelda m'aspettano per andare e fare
un giro in questa bella giornata dell'estate. Solo volevo dire che tutto lo che loro hanno detto dell'Italia è sorprendentemente vero.
Cause time is passing by.
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 en compagnie des filles d'Ainsi Soit-Elle et on a le très grand plaisir d'avoir avec nous en entrevue en direct de Montréal, Mohamed Cherfi. Est-ce que Mohamed est avec nous?
Oui.
Allô Mohamed, donc d'abord, bienvenue à Ainsi Soit-Elle.
Merci.
Et avant de commencer l'entrevue, on va juste faire une toute petite mise en contexte. C'est sûr que les gens ont entendu beaucoup parler... De la lutte qui a tourné autour de toi, en fait, étant donné qu'il y avait le comité de solidarité à Québec. Mais juste pour nous mettre en contexte, d'abord, tu étais dans le comité des sans-statut algériens et le 4 avril 2002, il y a eu une levée du moratoire sur les déportations en Algérie. Peux-tu peut-être juste nous éclairer un peu là-dessus pourquoi il y a eu une levée sur le moratoire sur les déportations en Algérie?
Oui. D'abord, j'aimerais dire bonsoir à tous les auditeurs. Puis merci, Hélène, de m'avoir donné l'occasion de parler de ça. Bon, le moratoire, c'était une procédure qui protégeait des Algériens qui n'ont pas été acceptés comme réfugiés. Et c'était un statut temporaire en attendant que ça aille mieux en Algérie. Sauf qu'il a été levé plus tôt que ce qu'il fallait, parce que il a été levé en 2002. La situation ne s'était pas améliorée à l'époque. Même maintenant, il reste encore des problèmes. Et c'était donc sa levée était due à un rapprochement entre le Canada et l'Algérie. Et le jour de la levée du moratoire, l'ancien Premier ministre Jean Chrétien était en Algérie. Donc c'était vraiment pour des raisons
économiques.
Économiques,
oui. Oui, clairement. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les échanges entre le Canada, l'Algérie est le premier partenaire économique du Canada en Afrique et au Moyen-Orient. Et les échanges sont de l'ordre du milliard, certainement.
Oui, oui, oui.
Et je me souviens qu'on en avait discuté à l'époque, puis j'avais trouvé ça intéressant, tu avais soulevé la question du contexte de l'après 11 septembre, hein, que c'était plus facile pour le gouvernement canadien à ce moment-là de justifier ou en tout cas de faire accepter par l'opinion publique la déportation des personnes arabes ou musulmanes. Peux-tu nous...
Exactement, parce que il y a eu le 11 septembre 2001 et la levée du moratoire, c'était en avril 2002, donc c'était quelques mois plus tard et... C'était très facile pour le gouvernement de le faire parce qu'il y avait un contexte qui allait permettre de vendre ça à l'opinion. Donc, les gens étaient choqués par le 11 septembre.
Mm-hmm.
Et il y avait comme un genre, je dirais, d'arabophobie et d'islamophobie ambiante. Et le gouvernement a profité de ça donc pour vendre ça facilement. Mais peut-être il n'a jamais pensé qu'on allait résister de la sorte. Et...
Oui, ça m'amène à mon autre question. Donc, peut-être parler un peu du comité des sans-statuts algériens et algériennes dans lequel tu as tenu un rôle important, en fait, organisateur et porte-parole également. Peut-être nous parler comment la lutte s'est organisée avec le comité à Montréal.
Oui, c'est-à-dire, moi, personnellement, quand je revois tout ça, Je suis carrément, je suis étonné par l'ampleur du mouvement, par les résultats qu'on a eus, parce que, bon, on était 1000 personnes, mais on était, je veux dire, des sans-statut, on n'était pas chez nous, puis on faisait face à la déportation, puis on n'a pas une grande expérience militante. Donc au départ, c'était vraiment, on allait on allait vraiment à l'aventure.
Mm-hmm.
Mais ça démontre finalement que quand on a des convictions, puis quand on y croit, il y a une force qui se dégage. Et le comité des sans-statut algériens a été un mouvement de lutte incroyable qui a fait appel à une solidarité, à une mobilisation. Et c'est ça. On s'est bien organisé. On a été là pendant pratiquement 2 ans. Et on a réussi à faire régulariser 92% des personnes du nombre total, c'est-à-dire on était rendu à 900 personnes sur 1000, ce qui est...
Ce qui est assez incroyable, c'est vraiment quelque chose de...
Voilà, avec les moyens de bord, puis avec, je veux dire, avec toute la conjoncture.
Oui, certainement, ouais. Oui, c'est ça. Puis, mais par contre, justement, probablement, en tout cas, c'était notre analyse à l'époque, je m'en rappelle, au sein du comité de solidarité, dans lequel Hélène est ma co-animatrice, Hélène Vallière, qui est là, qui te salue sûrement.
Allô, Mohamed.
Salut.
Donc, on se souvient que l'analyse qu'on faisait, que c'est justement le rôle très important que tu as tenu au sein du comité comme porte-parole. Donc, pour des raisons politiques, tu as été exclue de cette procédure de régularisation-là, ce qui a fait que tu as reçu un avis de déportation. Hein?
Exactement, parce que bon, c'est sûr que j'étais un peu exposé avec la lutte, j'étais porte-parole, puis on a fait beaucoup d'actions, on a fait des actions directes, on avait des occupations de bureaux, on avait occupé le bureau du ministre fédéral à Ottawa, on allait régulièrement au bureau d'immigration Québec à Montréal, et tout au long de ce processus, j'ai été arrêté. Trois ou quatre fois, je pense, au total. Puis, on a appris à me connaître et à m'haïr. Et on a décidé de me punir parce que, bon, je veux dire, le programme de sélection des Algériens qu'on avait instauré, donc, pour répondre à nos demandes, c'était un programme qui sélectionnait les gens sur la base de l'intégration. Mm-hmm. Et c'est pas pour me vanter, mais je pense déjà que de faire de l'action militante dans un pays, c'est une grande forme d'intégration.
C'est clair, au sein de la communauté, ça c'est sûr.
Ben oui, parce que je veux dire, on milite pas, si on va en touriste quelque part, on va pas militer. On milite là où on se sent intégré, on se sent chez soi. Et donc, et d'évoquer l'argument que j'étais pas intégré.
C'était clairement une excuse, ça. Je me souviens qu'en tout cas, c'est encore l'analyse qu'on partage certainement. Peut-être juste pour finir la petite mise en contexte. Donc, après l'avis de déportation, tu es entré en sanctuaire en février 2003 à Québec, à l'église Unie-Saint-Pierre, avec le soutien très important et d'effectible du pasteur Gérald Doré. Puis c'est à ce moment-là que le comité de solidarité avec Mohamed Cherfi, donc des militants de Québec qui s'est mis sur pied, manifestations, conférences de presse, envoi massif de cartes postales jusqu'au viol du sanctuaire le 5 mars 2003.
Ouais.
Puis ça nous mène justement à la détention aux États-Unis, mais je pense que avant d'en arriver là, on va passer en musique, puis on va revenir tout de suite après pour évoquer plus la période que tu as passée en fait hors Québec aux États-Unis pour parler plus du centre de détention de Batavia puis de ce qui s'est passé ensuite, si ça te convient.
Parfait.
Alors, on va écouter la pièce Paper Planes du groupe M.I.A.
Stones and weed and bombs, running when we hit democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So no funny business. You already are.
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 en compagnie des filles d'Ainsi Squat-elle et nous présentement en entrevue avec Mohamed Cherfi. Bonjour Mohamed, toujours là?
Oui.
Donc, en fait, on faisait juste une mise en contexte quand même de la lutte, de ce qui a mené à la lutte, donc du comité des sans-statut algériens, pour en arriver justement à ta déportation. Et j'avais envie que tu nous parles un peu des conditions au centre de détention de Batavia, des conditions de détention, parce que je sais que c'était assez particulier qu'entre autres, toi, t'as eu des conditions spéciales étant donné l'attitude du Canada envers toi, qui refusait de donner des informations aux États-Unis. Donc, peut-être nous parler un peu de ça, des gens que tu as côtoyés, que tu as rencontrés.
Oui, d'abord, j'aimerais dire que normalement, quand on atterrit dans des centres comme ça, on a une chance d'être libéré sous caution, et donc c'est tous les immigrants qui arrivaient dans la section où j'étais, parce qu'il y avait, c'est quand même une prison fédérale où il y avait une section pour les immigrants puis une section pour les autres, puis tous les gens qui arrivaient là automatiquement avaient une caution de 5 000 ou 10 000 $, et moi j'avais même pas droit à ça, donc moi je devais vraiment attendre mon audience pour comparaître, pour faire valoir mon droit à l'asile politique aux États-Unis. Et cette audience, donc, allait prendre, prend en général une année pour avoir la chance d'aller en cours. Et je devais attendre donc toute cette période en prison parce que les Canadiens avaient donné des informations aux Américains sur mon cas. Et donc, le juge a dit, non, on va pas te libérer sous caution parce que tu es une personne qui n'est pas fiable. Et tu vas faire du trouble dehors, et donc on n'est plus en sécurité de te garder ici. Mm-hmm. Et bon, si tu es réfugié, on va te relâcher, sinon ça sera plus facile pour nous de te déporter. Et donc c'était vraiment frustrant d'avoir à attendre tout ça dedans. Et je pense que la prison, c'est peut-être pour moi, c'est l'un des endroits les plus pires sur Terre, parce que bon. Avec l'hôpital.
Surtout ces temps-ci, hein?
Voilà. Il ne faut pas être à l'hôpital puis en prison, parce que c'est les deux endroits les plus pires. Même si j'avais eu la chance, dans ma malchance, de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup d'immigrants, de personnes qui n'avaient pas leurs papiers, puis de demandeurs d'asile. Et j'avais compté une fois que j'avais rencontré des personnes de 90 pays. Mm-hmm. Et oui. des personnes de pays que j'avais jamais rencontrées ailleurs, des personnes du Népal, des places du monde où j'aurais jamais pensé avoir à rencontrer, et aussi à côtoyer avec une certaine, je dirais, il y a une certaine intimité aussi en prison, parce que veux pas, on est dans un espace réduit, puis...
Et c'était quoi vos conditions, Mohamed, là-bas? Est-ce que vous aviez des cellules individuelles? C'était comment? C'était organisé comment?
Non, c'était comme un grand gymnase, là. Puis tout est ouvert. C'est vraiment, c'est typiquement américain, parce que eux, ils veulent pas dépenser de l'argent. Ils sont très pragmatiques, puis...
On a casé le maximum de personnes en un endroit.
Oui, puis deux personnes peuvent tout surveiller, parce qu'il n'y a ni porte, il y a des lits qui sont comme ça en rangée, mm-hmm. Les toilettes sont ouvertes, les douches sont ouvertes, il n'y a rien de fermé, tu vois. Mm-hmm. Alors les deux officiers qui sont au centre peuvent voir tout en même temps.
Mm-hmm. Le grand œil de Big Brother qui est au milieu.
Oui, c'est ça.
Et c'est fou, parce que tu es là, tu n'as pas d'intimité, ne serait-ce que pour une seconde.
Donc, en même temps, ça crée une certaine, un délien très rapidement d'intimité ou avec les gens que tu côtoies.
Oui, oui, parce que, bon, on dort, on est en rangée comme ça dans des lits superposés, puis bon...
Il pouvait avoir combien de personnes dans cette salle-là, environ?
Dans notre section, il y avait 52 personnes.
Okay. Quand même.
Oui.
Ouais. C'est assez intense, mais quand même, malgré ces conditions, malgré tout, si je me trompe pas, 16 mois, corrige-moi, après 16 mois de détention, les États-Unis ont reconnu, t'ont reconnu le statut de réfugié politique en juin 2005.
Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était vraiment, ça confirmait que, donc, tout ce que j'avais fait, j'avais raison, parce que j'ai été dénigré, puis voilà, c'est pas un vrai réfugié, puis blablabla. Mm-hmm.
Puis c'est moi, d'autant plus,
moi, je criais à la protection parce que je savais, j'étais sûr de ça. Puis voilà, ça a été démontré, j'ai été reconnu aux États-Unis. Et le juge n'était pas du tout sympathique avec moi.
Mm-hmm.
Il était vraiment antipathique, mais à la fin, c'était tellement évident, il avait tellement de preuves que bon, il avait l'honnêteté de reconnaître ça. Et
c'est justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est d'autant plus ironique ou triste en même temps de voir que les États-Unis t'ont reconnu ce statut de réfugié politique-là alors que le Canada l'avait refusé.
Oui, oui, oui. C'est vraiment... c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais pensé que ça allait m'arriver aux États-Unis parce que, apparemment, à première vue, on se dit que le Canada, c'est plus raisonnable, entre guillemets.
Mm-hmm.
Puis on s'attend plus à être accepté au Canada qu'aux États-Unis, mais bon.
Et finalement, ça a été l'inverse, mais en même temps, c'est quasiment un pied de nez. Après ça, ça devenait beaucoup plus difficile pour le Canada, même si on réussit quand même à retarder les choses par des délais administratifs, c'était de plus en plus difficile pour eux de te reconnaître ce statut-là.
Oui, mais je tiens justement à remercier le comité de soutien Mohamed Cherfi. Puis à le pasteur Gérald Doré, parce que je pense que je suis vraiment convaincu au fond de moi que le Canada ne voulait et n'avait aucun plan de me donner la chance de revenir, et que d'avoir eu ce comité, d'avoir eu Gérald Doré, puis bon, le sanctuaire qui m'a permis justement de générer ce mouvement, et d'avoir eu ça a fait que je suis là aujourd'hui, parce que je pense pas que je pense qu'on m'avait déporté, qu'on voulait plus avoir de rien de moi forever, comment dire. Mais c'est grâce à votre travail.
OK. Après ta libération, peut-être nous dire comment ça s'est passé à l'extérieur aux États-Unis.
Oui, après, bon, j'avais mes papiers, j'étais installé à Burlington, c'est une ville qui est pas très loin de Montréal, puis une belle petite ville que je considère, moi, qui n'a rien à voir avec les États-Unis, je veux dire, c'est vraiment, c'est le Vermont, c'est l'État le moins américain, là.
OK. C'est des bons Américains.
Oui, quand on dit Américain, on pense... On a des idées des choses, mais le Vermont, c'est vraiment un État progressiste où tout le monde est contre la guerre.
Oui, il y a un fort mouvement écologiste aussi. Clairement, le Vermont, je pense, c'est un endroit à pas manquer. Peut-être juste pour terminer ce micro-là, Mohamed, je te demanderais comment se déroule ton retour à Québec, parce que je sais, ben, au Québec, à Montréal, parce que je sais que tu as pris dernièrement la parole à la fête d'automne, le speak communautaire de Solidarité sans frontières. Je me demandais comment se passait justement ton retour parmi tes camarades, j'irais, les militants, les militantes du comité des sans-statut, puis tes amis aussi, comment ça se passe?
Ça se passe avec beaucoup de plaisir, parce que justement je prends conscience de l'ampleur de ce qu'on a fait, et de revoir des gens, puis de les voir sauter carrément sur moi, m'embrasser, être reconnaissant. Tu te dis tu vois que bon, ça fait 5 ans puis qu'ils ont fait leur chemin, que maintenant ils vivent en famille, ils sont stables. Et je rencontre pratiquement à tous les jours des personnes, et les gens sont reconnaissants, et les gens sont contents d'avoir réalisé ça. Ils sont très fiers. Et puis...
Ils sont contents de ton retour aussi? Sûrement.
Ils sont contents de te voir un peu.
Ben oui, parce que quand même, ils avaient tous une forme de culpabilité. Tu vois. Des fois, les gens même s'excusent, on n'a rien pu faire. Parce que, bon, c'est comme ils sentent qu'ils me doivent quelque chose. Donc de me voir revenir, c'est comme ça. Ils n'ont plus cette culpabilité que, bon, ils m'ont vu être déporté, ils étaient là impuissants. Et
maintenant, c'est la fête.
Voilà.
Parfait. Donc, on va passer à la musique, puis on va revenir tout de suite avec toi après, Mohamed.
D'accord.
Oui, on va écouter le groupe Knaan avec la pièce Struggling.
Yeah. Start out just to vibe out. I ain't about to bow out. I'm more gangster than you are, but I ain't about to rah rah. My season'll come, it has to. Honestly, I feel like I'm 10 months pregnant or something. I'm past due. Sincerely, I'm touchy these days, I can't take none. I'm trying to treat my record like the law, shit, I'm dying to break some. And mostly, I'm up and stressing when other folks sleep. Believe me, I know struggle, and struggle knows me. My life owes me, like an overdose, I'm slowly drifting into the arms of trouble, then trouble holds me. And nothing else is close to me, more than pain, unfortunately. Like a self-fulfilling prophecy, I'm supposed to be struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again.
I should be chilling on beaches, instead my bone freezes. Ducking glocks and I walk well like Jesus. The realest thing for me is, since I was a fetus, the only break I ever got was at Reese's. So legitimately, I remain very little relieved. And at Thug Rappers, I remain very little intrigued. And can you blame me? Look how we lived in the late 80s, throwing rocks at the crazy ladies. And when we played these crazy games, the whole crew had crazy names. We even had a cripple, we used to call them lazy legs. But my faith remains untouched and unchanged. Still in my block, you hear more shots than a gun range. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again.
More to the truth, no writing, just recording me at the booth. Yeah. Forced by the loop and the guitar, but I'm the boss of the groove. Speak truth, my deep roots remain in equal danger. The pain of my song is crazy, but the sequel is stranger. Hey man, I'm from the hardest projects. They're departed, I'm now known as a recording artist. Spilling what little remains of your memories in the process. Bitter a little, but making your names into a colossus. Believe me, I'm thankful my brother's still with me. And ain't much changed, Bobby's still troubling Whitney. And Bush is still bombing poor people, yo, he's deadly. I got a little recording gig, but evidently I'm
struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again.
Struggling. Still struggling. C'était l'excellent et séduisant Keenan, pour ceux qui savent à quoi ressemble ce Torontois d'origine somalienne qui rappe pas mal bien. En fait, pour ceux qui ont pu le voir, moi j'ai eu la chance de le voir cet été au Festival d'été. Il était au Carré d'Urville, à la scène des musiques du monde.
Découverte.
Oui, exactement. Puis c'était vraiment un excellent spectacle. D'ailleurs, il y avait une spectatrice endiablée qui m'avait dit, parce que je chantais à tue-tête, puis qui m'avait dit... On l'a, notre nouveau Michael Jackson.
Oh mon Dieu!
Ouais, c'était très étrange. Ça m'a laissé perplexe. Je cherche toujours le lien qu'elle a pu faire. Enfin, on est de retour avec Mohamed. T'es toujours là?
Oui, oui.
Oui. Que penses-tu de...
De nos divagations musicales.
Oui, non, c'est ça. En fait, j'avais envie, je reviens avec un petit peu plus de sérieux, j'avais envie de t'amener sur le mouvement de justice pour les immigrants, les réfugiés aux États-Unis et au Canada, parce que c'est intéressant de... peut-être après ces cinq années-là, de voir quel regard tu portes sur les actions, sur les stratégies d'organisation. Puis, étant donné que tu étais aux États-Unis en 2006, dans le contexte, peut-être juste pour les auditeurs et les auditrices, à ce moment-là, en 2006, il y avait le projet d'une législation anti-immigrée et ça a provoqué beaucoup de manifestations. En fait, c'est que jusqu'alors, lorsqu'on était un immigrant illégal, ça constituait une violation des droits civils, pas un délit criminel. Puis à ce moment-là, il y avait vraiment un projet de loi pour que ça devienne criminel. Donc, ça a provoqué de fortes mobilisations, des manifestations avec des millions de personnes dans la rue, Los Angeles, Dallas, New York, Chicago et même dans de plus petites villes. Puis étant donné que tu étais aux États-Unis à ce moment-là, j'avais envie que tu nous parles un peu de ça. D'abord, s'il y a eu des manifs dans ton coin, quelle analyse tu portais à ce moment-là sur ce mouvement-là?
Oui, oui. J'ai pas été impliqué, mais moi j'étais étonné parce que même au Vermont, même à Burlington, qui est une petite ville, il y avait des manifs de 2000 personnes, ce qui est énorme pour la ville. Puis ce qui m'a étonné, c'est que ce mouvement-là, qui semblait tellement énorme et tellement enthousiaste, d'un seul coup comme ça, tout s'est arrêté. Parce que j'étais sûr que ça allait mener à quelque chose, mais j'ai jamais compris... cet arrêt-là brusque de ce mouvement.
Mm-hmm.
Parce que à un moment, tout le monde, même les grands partis politiques étaient plus ou moins favorables à ce qu'ils appelaient path for citizenship, un chemin pour la citoyenneté, là, des moyens de régulariser, parce que aux États-Unis, on est rendu presque à 13 millions de personnes qui n'ont pas de papier, donc mm-hmm. c'est énorme, et à un moment, ça crée effectivement des problèmes parce que d'ailleurs ce problème-là il est énorme au Canada parce que quelqu'un qui n'a pas de papier, et j'aimerais vraiment le souligner, c'est pas comme quelqu'un qui était comme nous sous moratoire. Il y a des gens qui actuellement sont ce qu'on appelle au noir, et ça c'est terrible parce que c'est... Je veux dire, il peut pas envoyer ses enfants à l'école, il peut pas avoir le vaccin là pour des choses élémentaires,
mm-hmm.
et c'est très 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 difficile. Et aux États-Unis, actuellement le mouvement No One Is Illegal,
oui.
Ils sont en train de travailler sur un projet de ville sanctuaire, c'est-à-dire essayer d'avoir un endroit. Où au moins il y aura des écoles, il y aura des endroits, des CLSC où des gens qui n'ont pas de documents peuvent à la limite se faire soigner ou envoyer leurs enfants, parce qu'un enfant ça doit aller à l'école indépendamment du statut de ses parents.
Mm-hmm.
Et donc créer des endroits pour un minimum de vie pour ces gens-là. Et qui existe par ailleurs dans des grandes villes américaines. À New York, moi, on m'a parlé, les gens qui étaient avec moi en prison, ils n'avaient pas leurs papiers, mais leurs enfants étaient à l'école, puis il y avait des hôpitaux où ils allaient se soigner, on ne demandait même pas le nom. Et ça, c'est, je pense, c'est le minimum en attendant de travailler pour une régularisation.
Une régularisation, c'est intéressant parce que justement, Hélène Vallière a reçu David Moffett, que tu connais, en entrevue.
Ouais.
Ben oui, on a fait une entrevue sur la campagne de No One is Illegal à Toronto, qui est à peu près le même genre de campagne, dans le fond, là, créer
de don't ask, don't tell,
donc de créer des lieux où les immigrants sans statut peuvent avoir accès à des services sans qu'on demande leurs papiers, là. Donc, c'est exactement le même genre de campagne.
De campagne, c'est intéressant de voir que ça se passe aussi aux États-Unis. Mon autre question, elle porte plus au niveau au Québec, parce que t'as connaissant, je sais que, bon, t'as sûrement pris le temps d'arriver tranquillement, mais je ne doute pas de ta flamme et de ton envie peut-être de reprendre le flambeau puis de t'organiser avec d'autres personnes dans le mouvement de justice, justement, pour les immigrants et les réfugiés. Puis je me demandais quel regard tu portes depuis que tu es revenu, parce que moi, je pense qu'il y a quand même des aspects positifs des luttes, c'est-à-dire qu'il y a des organisations quand même commencent à être ancrées, dont le discours commence à... Pas commence, mais en fait, un discours qui commence à être de plus en plus connu, qu'on pense à Solidarité sans frontières, à No One's Illegal. Je pense aussi à Abdelkader Belanoui, qui a été, après 4 ans de sanctuaire à l'église Pointe-Saint-Charles, régularisé. Donc, quand même des aspects positifs, mais en même temps, il y a quand même un ressac, je ne sais pas si on peut encore l'attribuer au post-11 septembre, mais il y a un ressac tout court, qu'on pense au certificat de sécurité, aux conservateurs qui sont au fédéral, puis on voit clairement qu'il y a un durcissement au niveau des politiques d'immigration, de fermeture des frontières. Donc, avec ce contexte-là, puis avec les tactiques, dans le fond, beaucoup de confrontations qui étaient avec le pouvoir directement, qui étaient mises de l'avant par le Comité des sans-statut algériens, aussi par Solidarité sans frontières. Donc, ma question est très large, mais avec tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, j'avais parlé à un moment avec Jaggy Singh, puis j'ai dit... moi, je suis pas vraiment bien installé, mais quand je le serai, là, mon rêve, idéalement, c'est de travailler sur un projet ici au Québec, parce que je me dis, c'est, bon, dans la province de Québec, là, quand je dis Québec, c'est la province, parce que je me dis que, bon, c'est plus, c'est, j'ai l'impression que c'est puisque c'est plus petit, c'est plus, on peut être plus effectif, pour créer un mouvement pour une régularisation. Ça s'est passé en Europe à des moments donnés où on fait une régularisation comme ça, on remet des compteurs à zéro. Puis ça serait vraiment bien de travailler sur un projet comme ça au Québec, d'autant plus que le Québec a le droit de sélectionner ses immigrants. Mm-hmm. Puis on peut mener une campagne et dire, nous, on veut pas de gens qui souffrent dans notre province. Puis, je veux dire, on ne peut pas tolérer ça. La vie de quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est pas une vie. C'est incroyable. Je veux dire, il faut le voir pour le croire. Parce que c'est des choses qui, pour nous, sont évidentes. Toi, tu vois un char de police, puis pour toi, tu le remarques même pas. Mais lui, il voit un char de police, il capote. Mm-hmm. Lui, il veut louer, il peut pas. Il veut... Tu vois, des choses élémentaires, il veut travailler, il peut pas. Déjà que les immigrants, avec leurs papiers, ils ont des problèmes pour intégrer le marché du travail. Alors, si en plus, t'as pas de travail, t'as pas de papier,
encore
plus dur. Si tu as une famille, si tu as des enfants, je veux dire, leur vie est vraiment un défi tous les jours. Et donc, on peut générer un mouvement ici au Québec et dire c'est inacceptable, on va pas accepter ça, et on va aller chercher des appuis et on va mobiliser tout le monde, et ça va être une grosse campagne. Puis après, je pense que si on arrive à mobiliser assez de monde, à un moment, le gouvernement va dire OK, peut-être ils vont mettre des conditions, mais je veux dire, si on arrive dans cette vague-là à régulariser 50%, 60%, je m'en fous, mais moi, qu'un mouvement comme ça change la vie des gens, que c'est concret, ça, j'en rêve de travailler sur ça.
C'est très inspirant. En tout cas, on n'est pas loin. Tu connais les gens à contacter.
C'est où on habite.
Tu connais nos adresses, les gens à contacter à Québec pour la lutte. Peut-être un dernier mot, quelque chose que tu auras envie de dire à l'auditoire pour terminer l'entrevue?
Pour dire, hein?
Alors, à l'auditoire, aux personnes qui nous écoutent, entre autres, à l'AJT, on les salue,
salue les gens à l'AJT qui nous écoutent en direct.
J'aimerais dire que, bon, j'espère que les gens qui sont au courant de mon histoire vont être inspirés dans leur vie personnelle. J'espère que mon histoire inspire le monde, que comme quand on veut quelque chose et puis que quand on se bat, on arrive toujours à réaliser les choses. Puis j'aimerais que les gens, si demain ils vont être sollicités pour une quelconque lutte pour les droits des réfugiés, des personnes sans papier, qu'ils prennent le temps de répondre à cette sollicitation, que ce soit une signature ou de l'argent, ou si demain quelqu'un t'arrête dans la rue et te dit signe une pétition, s'il vous plaît, prenez le temps, lisez la pétition, mettez votre signature, donnez le montant que vous pouvez donner, et puis sentez-vous concerné par cette cause, parce que il y a beaucoup de souffrance générée par le statut.
Il y a des vies qui sont en suspens voilà. tous les jours.
Ouais. Merci beaucoup, Mohamed. Cherfi, je suis tellement heureuse après ces 5 années de pouvoir de t'avoir reçu en entrevue à Insiskwatel. On n'a pas arrêté d'y croire, on a continué. J'étais très émue en préparant cette entrevue, puis je me disais, Maudou, on l'a eu.
Ça fait du bien de faire une entrevue avec toi, ça, c'est sûr.
Exactement. Mohamed Cherfi, son pays était clairement ici. Merci beaucoup, on donne des nouvelles.
Ça fait plaisir, merci. Au revoir.
Oui, on s'en va écouter le groupe Metric avec la pièce Help, I'm Alive. C'était déjà tout ce soir pour l'émission d'Insiskwatel. On est en rediffusion, par contre, les jeudis à 13h pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous écouter ce soir. On a un site Internet maintenant qui vaut la peine d'être visité parce qu'il y a plus en plus de contenu dessus. On s'en occupe.
Certainement, oui.
Alors, vous pouvez le visiter au www.insiskwatel.org. Et vous allez avoir également nos émissions, nos dernières émissions en ligne, pour la plupart, quand il n'y a pas de fuck dans l'enregistrement.
C'est un work in progress.
Voilà. Et ben voilà, merci Chantal pour l'excellent choix musical de ce soir.
Comme toujours.
Merci Hélène pour cette excellente entrevue avec Mohamed Cherfi. Et merci Mohamed d'avoir participé à cette émission-là. C'est toujours un plaisir de s'entretenir même 5 ans plus tard avec Mohamed. Et moi-même, Hélène, je vous dis à la prochaine.